Il est 22h, vous écoutez Europe 1. C'est l'heure du journal avec Sophie Tussaud.
Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus. Nous constatons une vague plus rapide que toutes les précédentes. Nous devons tout mettre en œuvre dès maintenant pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice.
Le gouvernement l'annonçait initialement pour la fin du mois, elle arrive plus tôt que prévu. La France traverse une nouvelle vague d'épidémie en raison de la progression du variant Delta. Pour limiter les effets du Covid, le gouvernement adopte l'extension du pass sanitaire. Le fugitif est considéré comme dangereux dans les Alpes-Maritimes. Plus de 150 gendarmes traquent depuis hier un homme suspecté d'avoir tué une femme avec qui il avait entretenu une relation. Le Maroc nie tout en bloc après les révélations de l'affaire Pegasus. L'espionnage a échelle mondiale de milliers de journalistes via un logiciel israélien. Parmi eux, des Français qui travaillent à Mediapart et au Canard Enchaîné. Nous entendrons le témoignage de l'une des journalistes qui a été surveillée. De plus en plus de cas de contamination Covid-19 à Tokyo, à seulement 4 jours du début des Jeux Olympiques. Les autorités japonaises temporisent et se veulent rassurantes. La météo, le soleil domine encore demain, nous dira en fin de journal Marlène Duret.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir à tous. La situation sanitaire se dégrade de jour en jour en France et la quatrième vague redoutée est désormais présente. C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal ce soir à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire.
Nous sommes entrés dans une quatrième vague du virus. Si nous partons d'un faible nombre de contaminations, la dynamique de l'épidémie est extrêmement forte. Nous constatons une vague plus rapide, une pente plus raide que toutes les précédentes. Nous devons tout mettre en œuvre dès maintenant pour que cette vague ne soit pas aussi plus dévastatrice. Le taux d'incidence poursuit son explosion dans notre pays. Il atteint désormais 86 pour 100 000 habitants au niveau national, selon les chiffres corrigés du jour férié du 14 juillet, soit une augmentation de près de 125% en une semaine. Une hausse de ce type, je le dis, aussi forte, aussi soudaine, nous n'en avions jamais connu depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Depuis plusieurs jours, nous avons franchi à nouveau le seuil des 10 000 cas positifs chaque jour. Le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre de personnes pouvant être contaminées par une personne malade, monte lui aussi en flèche et atteint un niveau record face à un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair. Tout laisse à penser que ce taux devrait continuer à augmenter.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement. Et on vient de l'entendre, le gouvernement veut aller vite et tout mettre en œuvre pour éviter une situation dramatique comme celle qu'on a pu connaître auparavant. C'est pour cela, Claudia Bertram, que le gouvernement s'est réuni en Conseil des ministres en fin de journée pour adopter le projet de loi sur l'extension du pass sanitaire.
Oui, avec ses principales mesures et certains aménagements pour tenir compte de l'avis du Conseil d'État. Le texte prévoit donc l'isolement des personnes atteintes du Covid-19 pour 10 jours, mais avec une levée des contrôles entre 23h et 8h. L'extension du pass sanitaire est confirmée. La mesure, là aussi, a reçu l'approbation du Conseil d'État, mais avec des réserves concernant les centres commerciaux. Le gouvernement veut toutefois maintenir le pass sanitaire dans certains centres commerciaux à condition de pouvoir faire ses courses pour les produits de première nécessité dans d'autres lieux. C'est ce qu'a précisé Gabriel Attal ce soir. Autre annonce du porte-parole, les sanctions envers les professionnels chargés de contrôler le pass sanitaire sont revues à la baisse. En cas de manquement, ils risquent une amende de 1 500 € et non plus 45 000 € comme prévu initialement. Et puis, une période de rodage sera accordée. Il n'y a aucune envie de piéger quiconque, assure le porte-parole du gouvernement. Désormais, c'est un marathon parlementaire qui débute. L'Assemblée et le Sénat vont se saisir du texte. Objectif qu'il soit adopté avant la fin de la semaine.
Claudia Bertram à l'Élysée pour Europe 1. Le texte arrivera donc à l'Assemblée mercredi. Avant son examen par les députés, Jean Castex s'exprimera au journal de 13h sur TF1. L'Angleterre également fait face à une flambée des 4 contaminations à cause du variant Delta. Pour autant, aujourd'hui marquait le Freedom Day, la levée de toutes les restrictions sanitaires. Le gouvernement britannique compte sur la vaccination pour limiter les formes sévères de la maladie et le nombre de décès. Sur place, les avis sont assez partagés. Anaïs Cordoba.
Oui, il y a ceux qui se réjouissent et ont fait la fête en boîte de nuit hier soir, mais ils seraient plutôt minoritaires. Selon un sondage paru aujourd'hui, 55% des Britanniques pensent que ce retour à la normale est précipité. Écoutez ces deux Londoniens.
Je ne vais pas me précipiter dans une boîte de nuit. Je vais continuer à garder un peu mes distances. C'est agréable de revenir à la normale, mais j'espère vraiment que ça ne va pas nous mener à un nouveau confinement. On se demande, est-ce que c'est pas trop tôt, trop précipité ?
C'est vraiment super de retourner en boîte de nuit et de profiter de la vie sans restriction.
Aussi
le fait de voir moins de gens porter le masque, c'est agréable. Ça montre qu'on revient à la normale et que le Covid est en train de disparaître petit à petit.
Il règne aussi une certaine confusion quant au port du masque. Légalement, il n'est plus obligatoire, mais il est quand même imposé dans certains lieux comme le métro londonien. Résultat, de nombreux Anglais comme Martin ne savent plus vraiment s'il faut le porter ou non.
On peut rentrer dans certains magasins sans masque, mais certains continuent de l'imposer. Alors je suis un peu confus. Quand on quitte la maison, on prend quand même un masque, mais on ne sait pas si on en aura besoin.
Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, de nombreux médecins et scientifiques demandent aux Britanniques de continuer à porter le masque.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Europe 1, le journal de la nuit. Sophie Tussaud.
Également dans l'actualité, cette chasse à l'homme qui a lieu dans un petit village des Alpes-Maritimes depuis hier, à Gréolières, une commune de 600 habitants. 150 gendarmes recherchent activement un homme soupçonné d'avoir tué une femme de 32 ans près de Saint-Tropez avec qui il avait eu une brève relation, Gladys Laffitte.
Oui, les enquêteurs s'orientent donc vers la piste du féminicide. Cette jeune femme a été tuée dans la nuit de samedi à dimanche d'une balle dans la tête. C'est la vidéosurveillance de la copropriété où vivait la victime dans le Var et l'exploitation de son téléphone qui a permis d'identifier le suspect. Un homme de 33 ans, donc inconnu de la police et de la justice. Un appel à témoins a été diffusé en fin de matinée par la gendarmerie avec sa photo pour aider à le retrouver car l'homme est armé et dangereux selon le procureur adjoint de la République à Draguignan. Hier, il a même tiré sur un gendarme venu l'interroger à son domicile sans toutefois le blesser. À l'heure actuelle, il est donc toujours activement recherché dans le secteur de sa maison familiale, une zone montagneuse et très escarpée.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1. En fin de journée, le préfet des Alpes-Maritimes a appelé le suspect à déposer les armes et à se rendre. Il a tiré hier sur un gendarme. Il est considéré comme dangereux. Ce salarié d'une société de travaux publics sur la Côte d'Azur est âgé de 33 ans. Il serait caché quelque part dans le quartier de Laval, à 6-7 km du centre du village où il a grandi et où vivent ses parents. Sylvie est restauratrice à Gréolières. Le fugitif était l'un de ses clients. Écoutez.
C'est une personne tout à fait normale, plutôt bien rangée dans la vie, qui était passionnée par son métier apparemment. On n'aurait jamais pu penser qu'à un moment donné, il pète un câble. Franchement, on ne comprend pas. Puis bon, c'est plutôt un village tranquille, donc c'est toujours étonnant et consternant, quoi. Il serait mieux, voilà, ce serait qu'ils reviennent un peu à la raison et qu'ils se rendent. Les gendarmes nous ont dit que par rapport à la configuration du terrain, etc., ils allaient avoir du mal à le trouver. Là où il habite, c'est au bord de la rivière du Loup. Il y a une montagne qui tombe au bord du Loup. C'est vraiment abrupt, etc. Il faut vraiment, vraiment connaître. Il connaît bien les alentours et je pense que malheureusement, ils l'auront à la fatigue et au stress, comme ça s'est passé dans les Cévennes.
Dans les Cévennes, où s'est également déroulée une chasse à l'homme en mai dernier, traquée durant plus de trois jours par des centaines de gendarmes dans la forêt et la montagne, Valentin Marconne, auteur d'un double meurtre, avait fini par se rendre. À noter que mercredi, un rassemblement en hommage à la femme de 32 ans tuée hier aura lieu à 18h à Plan de la Tour dans le Var. 3000 téléphones grave danger seront déployés d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé Éric Dupond-Moretti cet après-midi lors d'un déplacement dans l'Oise dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Éric Dupond-Moretti qui n'envisage pas de quitter le gouvernement malgré sa mise en examen vendredi pour prise illégale d'intérêt. Il se dit bien décidé à rester ministre de la Justice. Il s'est exprimé cet après-midi.
Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. Rien n'entamera ma détermination. Je suis extrêmement serein. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Et j'ai reçu un certain nombre de soutiens, même de l'opposition, des soutiens extrêmement nombreux. Je veux vous dire, monsieur, en tant que justiciable, j'ai comme tout le monde des avocats qui feront valoir mes droits. Et en tant que ministre, je suis à 100% dans la tâche qui est la mienne. Je veux vous dire d'ailleurs que dans quelques heures, je serai au Conseil des ministres pour présenter un projet de loi sur l'irresponsabilité, que demain je serai pleinement ministre, après-demain aussi et pour tous les jours qui viennent.
Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. La riposte de Mediapart et du Canard enchaîné à l'affaire Pegasus, le site d'information et l'hebdomadaire satirique, porte plainte après que certains de leurs journalistes ont été espionnés par un service marocain à l'aide d'un logiciel israélien. Des journalistes et dissidents du monde entier auraient également été surveillés. 50 000 numéros de téléphone au total. Parmi eux, Lénaïque Bredou, journaliste à Mediapart, qui évoque un système très intéressant.
Pegasus s'introduit partout sans que vous le sachiez. Il n'y a pas un câble de brancher ou il n'y a pas une messagerie, un mail que vous recevez comme c'est parfois le cas en fait. C'est un système extrêmement sophistiqué. Il y a toutes vos applications parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pas juste le piratage d'une messagerie ou une écoute téléphonique comme on en a connu ces dernières années. Le logiciel Pegasus, il a accès à absolument tout votre téléphone, c'est-à-dire il est vos yeux et vos oreilles, y compris les messageries cryptées, mais votre application de sport, Deezer ou Spotify si vous écoutez de la musique, les radios que vous écoutez le matin, les impôts, d'autant plus puissants que vous ne voyez rien.
Lénaïque Bredou avec Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1. Et après la révélation de cette affaire, le Maroc a rejeté les accusations d'espionnage et dénoncé des mensonges. L'ONU, de son côté, réclame une meilleure réglementation des technologies de surveillance. Tout autre chose à présent, vous avez tous déjà vu cette question lorsque vous allez sur un site internet, acceptez-vous nos cookies? Les cookies, ce sont ces petites données utilisées quand on surfe et qui sont utilisées à des fins publicitaires. Et bien la CNIL, le gendarme français des données, s'agace un peu de la situation parce que certains sites ne permettraient pas aux internautes d'avoir réellement le choix. Et après plusieurs avertissements, la CNIL durcit le ton, Clément Le Saffre.
Oui, parce que certains sites ne se mettent pas en conformité avec le droit français. La CNIL a édité une règle simple, celle du consentement explicite. Lorsqu'un site vous demande si vous acceptez les cookies, il doit y avoir deux possibilités affichées clairement, tout accepter ou tout refuser. Sauf que des sites restent dans la zone grise en remplaçant par exemple la case refusée par une case personnalisée, ce qui nécessite une action de la part de l'internaute, action compliquée pour qui n'est pas à l'aise avec le numérique. La CNIL avait donc adressé une première salve de mise en demeure fin mai. Deux mois plus tard, il y a encore une quarantaine de sites qui traînent les pieds. Les entreprises ne sont pas nommées, mais la CNIL cite quatre plateformes majeures de l'économie numérique. On pense à Google, forcément, mais aussi deux acteurs majeurs du tourisme en ligne, trois sociétés de location de véhicules ou encore deux services publics en ligne. C'est un dernier avertissement, avant sanction, très clairement. Ces sites ont jusqu'au 6 septembre pour simplifier leur gestion des cookies, sous peine de se voir infliger une amende allant jusqu'à 2% de leur chiffre d'affaires.
Clément Le Saffre, dans 4 jours, le début des Jeux Olympiques à Tokyo, et alors que l'événement approche, le Japon retient son souffle. Plusieurs athlètes de différentes nationalités ont été testés positifs au Covid-19 au sein du village olympique. Malgré tout, Julien Froment, les autorités nippones ne s'alarment pas de la situation.
Oui, officiellement, pas d'inquiétude. Le CIO rappelle que sur les 30 000 tests menés sur 18 000 personnes, seulement 55 cas se sont révélés positifs. Mais la bulle sanitaire tokyoïte a bien du mal à tenir à mesure que l'ouverture des Jeux approche. La capitale dénombre en effet plus de 1 000 cas positifs journaliers depuis une semaine. Et hélas, les athlètes n'y échappent pas. Hier encore, un volleyeur tchèque a été testé positif au village olympique, tout comme un membre du staff technique. Ils ont tous deux été placés à l'isolement. Plus inquiétant, l'équipe de foot d'Afrique du Sud, qui est dans le même groupe que celui de l'équipe de France. Là, c'est un potentiel. C'est le cluster, 3 tests positifs et surtout 21 cas contact. Compliqué dans ces conditions d'être au grand complet pour le tout premier match dans 2 jours face au Japon. Des Jeux Olympiques décidément compliqués pour le pays organisateur d'un point de vue sanitaire, mais pas que. Le musicien japonais Keigo Oyamada, qui a composé l'un des thèmes de la cérémonie d'ouverture, a dû démissionner pour avoir harcelé des handicapés dans sa jeunesse. Enfin, l'un des sponsors principaux, Toyota, a indiqué qu'aucun responsable ne sera présent vendredi physiquement à cette même cérémonie d'ouverture, malgré une contribution de plus de 500 millions de dollars pour ces Jeux de Tokyo, qui se seraient bien passés d'une telle publicité.
Et Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Et puis ça ne vous aura bien sûr pas échappé après un début de mois de juillet aux allures de novembre, l'été finalement revenu, pour le plus grand bonheur des vacanciers, également de ceux qui ne partent pas et qui du coup peuvent de nouveau profiter des parcs et des jardins.
Là, c'est du bonheur. Il y a le soleil, on est tranquille. Puis il était temps, quoi, parce qu'il y en avait marre.
Ça donne l'impression d'être en vacances alors qu'on l'est pas.
Ah oui, je suis très contente. On a fait un pique-nique, on peut aller à la plage et le soleil, ça fait toujours du bien. pour avoir des vitamines D.
J'ai dit à mes copines de venir pour qu'on bronze. C'est dommage qu'il n'y ait pas une piscine ou de l'eau ou je sais pas, un truc pour se rafraîchir parce qu'il fait trop chaud.
En même temps, si je puis me permettre, vous vous êtes mis en plein soleil.
Oui, mais c'est fait exprès. Mais...
une petite bataille d'eau peut-être ou pas?
Bah oui, Gaspard.
On a les pistolets à eau.
On peut en faire pour nous.
Des témoignages recueillis dans Paris par Damien Mestre. Et on passe justement au temps de demain, Marlène Duré. Il va faire toujours beau et chaud.
Hormis quelques plaques de grisaille au lever du jour, la matinée sera en effet pleinement ensoleillée, Sophie. Alors la grisaille risque de se maintenir l'après-midi le long des côtes landaises ou basques. Progressivement en journée, le ciel va devenir partiellement nuageux ou voilé, laissant échapper quelques gouttes parfois, depuis les frontières du Benelux à la région parisienne, jusque dans les terres normandes et en débordant même un peu sur la Bretagne, mais l'impression restera belle. Et puis de l'Occitanie en remontant jusqu'au département charentais aussi, le ciel pourrait se voiler. Des nuages plus menaçants pourront tourner à l'averse orageuse sur les Pyrénées et son piémont, ainsi que dans les Alpes. Les températures maximales afficheront généralement 25 à 32 degrés, jusqu'à 35 en Provence. On attend par exemple 25 à Épinal, 30 degrés dans la capitale, 33 en Gironde, à Pauillac par exemple, et puis 29 à 35 autour de la Grande Bleue.
Merci Marlène Duré. Et avant de refermer ce journal, on voit les unes de la presse de demain. Le gouvernement engage la bataille du pass sanitaire, titre Le Figaro. Le chef de l'État table toujours sur la vaccination de 43 millions de Français en septembre, avec comme atout principal le pass sanitaire qui devrait cependant être assoupli. Le pass sanitaire également en une de l'opinion. Le kit ou double du pouvoir. Le Dauphiné libéré également. Le pass sanitaire, ça se précise, titre Le Quotidien régional. Les Échos s'intéressent aux variants qui font trembler les marchés boursiers, les marchés mondiaux prennent peur dans le sillage des places asiatiques. Les bourses européennes et Wall Street ont lourdement chuté. Les investisseurs craignent que la diffusion du variant Delta ne freine la reprise. À la une de l'Humanité, cette affaire, cette polémique, Pegasus, le cheval de Troie contre les libertés, un logiciel israélien a permis à des États, dont le Maroc, de traquer des milliers de smartphones. Une journaliste de l'Humanité a également été espionnée. À la une de La Croix, les talibans ont-ils changé le mouvement fanatique qui ne cesse d'étendre sa domination territoriale en Afghanistan, tente de montrer un nouveau visage sans convaincre complètement. C'est à lire en pages 2 et 3 du Quotidien. Et puis, à la une de Libération, une chanteuse, danseuse que l'on connaît bien, Britney Spears. Et si on écoutait Britney Spears, l'idole américaine soutenue par le mouvement hashtag Free Britney donne de la voix pour se défaire de la longue et stricte tutelle de son père. Retour sur une affaire qui pourrait changer la face du star system. C'est donc à lire dans Libération.